présentons dans la série L'écran radiophonique. Un scénario original de Julien Jean-Pierre. La deuxième époque de Violence et Crépuscule. Imami. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Lorsqu'il est au château, il lui dit « Fais attention à toi, je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. » Guillaume lui dit « Mais que veux-tu qu'il m'arrive ?» Callien lui dit « Je ne sais pas, peut-être cette histoire de fils de Genetou ?» Guillaume lui dit « Je ne suis pas l'élu, c'est toi. » « Oui, mais on peut te prendre pour moi ?» Comme la vieille femme, j'ai fait un rêve horrible où tu étais mort. Guillaume lui dit, ce n'est rien, n'y pense plus, ce n'est qu'un rêve. Les jours passent. fait de plus en plus des rêves étranges. Il voit le monde d'une drôle de façon, déformé, trouble, ça bouge tout le temps. Les visages, les gens sont caoutchoutés, mous. Le sol est mou. La lumière passe par un brouillard, ou plutôt les rayons lumineux s'infiltrent dans un brouillard. Il entend constamment dans sa tête des ordres, les gens lui crient après, lui courent après. Il se retrouve dans des rues sombres, mortes, sales. Il tombe dans un puits tout noir, se réveille et sur un parking, un grand parking, comme ceux d'un supermarché, mais c'est en pleine ville et à Paris. Il est avec des personnes, le parking semble abandonné, il y a des bâtiments abandonnés au loin. On voit le Paris moderne. Galien demande à un homme la gare de Lyon. C'est ici. Il montre du doigt à gauche. L'homme lui dit, non, c'est là, c'est-à-dire de l'autre côté. Galien est dépité. Il se réveille en sueur, transpirant. Il ne sait pas pourquoi ce rêve l'a troublé. Il a trop chaud. Il a eu trop chaud toute la nuit. Il a même été obligé d'aller se lever pour ouvrir la fenêtre. Regarde l'heure à sa montre qui est sur la table de nuit. Il est 4h45. Il se souvient du début de son rêve et se dit qu'il a vu la vie comme elle devait être, un très gros bouillonnement, et qu'heureusement qu'on ne la voyait pas comme ça, que c'est sûrement vrai que l'œil ne voit pas comme une caméra, mais comme une photographie, comme un photographe qui prendrait des photos constamment pour fixer ce qu'il voit, pour permettre au cerveau de reconnaître des images qui sont constamment en mouvement. La vie humaine, c'est une succession de photographies très rapides qui fait croire, qui donne l'illusion du mouvement. Mais qu'est-ce que voulait dire la deuxième partie du rêve? Le parking. Mystère. Les jours passent. La culture dans le désert se fait bien et il reverdit si l'on veut, car il y a des tas de plantations de légumes surtout. Petits pois, tomates, melons, betteraves, etc., etc. Pommes de terre, carottes, etc., raisins, pommes, pêches, poires et fleurs aussi. Le tout est planté au-dessus du sol, pas dans le sable, sur du fil de fer. L'eau est amenée par des tuyaux qui suivent le fil de fer. Et dans l'eau, il y a du fortifiant, de la vitamine. L'eau, c'est de l'eau de mer filtrée par des bactéries qui enlèvent le sel. Et à côté, chez les champs, il y a des usines de mise en conditionnement, ce qui fait que les produits agricoles du désert coûtent moins cher que ceux de l'Europe. Il faut moins de main-d'œuvre, il y a plus de place, c'est plus simple et l'eau n'est pas chère. L'Europe, la France, se trouve en difficulté, car il ne trouve plus à exporter ses produits alimentaires et même dans le pays même, les produits agricoles qu'il produit sont moins chers. Alors, créer encore plus de chômage, les agriculteurs sont en faillite. Ils demandent des aides de l'État, de l'Europe, qu'ils ne peuvent leur donner. C'est la faillite. Le désert se réveille, les terres de la France et d'autres pays tombe en friche. Les agriculteurs en colère manifestent, font des bagarres, empêchent les camions de circuler, surtout les camions de produits agricoles. Ils mettent le feu aux produits d'exportation, arrêtent les trains, camions, avions, bloquent le pays. Le gouvernement, pour montrer qu'il est là, fait du zèle. Il envoie la police armée contre les agriculteurs. La plupart de ces hommes sont des mutants, des chimères. Ils ne connaissent qu'une chose, l'ordre qu'on leur donne. Et ils sont d'une force surhumaine, avec des sens ultra surpuissants et des organes spéciaux. Tels que certains, des ailes, des griffes, des muscles, des yeux à 380 degrés, à infrarouge, etc., etc. Ces policiers, ces soldats sont reliés à une centrale informatique qui leur dit ce qu'ils doivent faire. Ils ont un émetteur et un récepteur à l'intérieur de leur corps qui relie directement au cerveau, à leur cerveau.
Ce n'est qu'un début.
Ils font une guerre sans merci contre les grévistes. Mais les grévistes ne se laissent pas faire. Ils ont jeté sur les Champs-Élysées des tonnes de fruits, de viande et d'œufs pourris qu'ils ont amenés en pleine nuit par camion. Au petit matin, les Parisiens ont vu et senti ces horreurs. Sur les autoroutes, l'on se bat à coups de tanks contre des tracteurs. Toute la circulation est bloquée. À Bruxelles, les agriculteurs ont mis le feu au Parlement européen. Il y a de nombreux blessés, morts des deux parties. On se bat de partout, dans les villes, campagnes, autoroutes, gares.
Ça va.
Puis, petit à petit, l'agriculteur s'apaise. Ce n'est pas facile de se battre avec des espèces de robots humains qui, eux, ne sont jamais fatigués. Les morts sont de plus en plus nombreux du côté des agriculteurs qui, eux, prennent la fuite pour se cacher dans les campagnes de peur des représailles. Les combats s'arrêtent faute de combattants. C'est la fin. Il ne reste plus qu'à nettoyer. Les morts sont nombreux. Il faut les brûler. Les déchets. Il faut les enlever, tout ce qui est cassé, les vitrines, voitures, maisons, etc., etc. Tout se nettoie petit à petit. Puis, la police, l'armée, retournent dans leur caserne. Le gouvernement décide de ne pas prendre des mesures contre les grévistes. Ce serait injuste puisque ce n'est pas de leur faute. Mais l'on ne fait rien pour eux. Les agriculteurs se marginalisent et lorsqu'ils n'ont plus d'argent pour payer tout ce qu'ils ont à payer, ils quittent leur ferme et vont vivre cachés dans les bois. Ce sont les SDF de la campagne. Le temps passe et la vie continue. Les femmes mettent au monde des bébés bizarres. Moitié homme, moitié bébé. Un corps d'homme, mais avec des oreilles plus grosses que la normale. Des yeux qui nous fixent d'une drôle de façon. Ils ont un côté terrible, qui font mal, qui font peur, qui mettent mal à l'aise, grandissent très vite. Et saute et court dans tous les sens en faisant beaucoup de dégâts. On est obligé de les enfermer dans des couveuses géantes en les attachant sur leur lit. Ils n'ont aucune affection pour leur mère. Ils ont des dents qui poussent très vite. Et le lait, ils n'en veulent pas. Mais cherchent la viande. Même certains essayent d'attraper des animaux, genre souris. Et, lorsqu'ils en capturent, ils les mangent comme ça. Ils les croquent comme ça. Les mères sont horrifiées. On les calme en leur disant que c'est une transformation de la nature due au climat qui change. La plupart, elles rejettent ces bébés. Turbulents, laids, méchants, qui mangent des bêtes crues. Surtout que les bébés se mettent à battre et à gifler et même à mordre leur mère, qui crie d'une façon bizarre, bestiale. En France, il y en a des milliers de femmes qui accouchent de ces monstres. Les médecins se demandent si ce n'est pas une épidémie. Décident de mettre ces monstres dans des maisons isolées pour les surveiller et les élever. Les mères acceptent. Le gouvernement trouve un château en Pays de Loire qui fait l'affaire. On le modernise, l'aménage en pensionnat pour enfants et bébés. Des médecins, infirmières sont réquisitionnés et on emménage les petits monstres là-bas. Très vite, l'on s'aperçoit qu'il meurt assez rapidement, qu'il meurt d'un coup au bout de 6 mois de vie. Est-ce dû à une malformation? Il est vrai que le personnel a été fourni par le laboratoire chimique Riquin. Est-ce que le personnel n'aurait pas un peu aidé la chose? Et lorsque le gouvernement demande de faire une autopsie sur ces êtres étranges, on lui dit qu'ils ont déjà été incinérés. Plus de traces. D'où venaient-ils? Pourquoi les avoir fait disparaître si vite? Peut-être que Riquin le sait, lui. Les mères de ces petits monstres n'ont pas protesté, ni n'ont eu de chagrin. Elles ont même été soulagées, comme tout le monde. Et comme dit Danfort, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Philippe vit toujours chez ses parents, ne fait rien, c'est-à-dire qu'il ne poursuit plus ses études et ne travaille pas. passe ses journées dans quelques associations humanitaires quelconques, écrit de petites nouvelles. Le soir, il aime se promener dans la ville. Il n'a pas d'amis, ne cherche pas à s'en faire. Et puis, peut-on s'en faire des amis ? On peut se faire des connaissances, des relations et des amis. C'est comme se faire une famille. L'amitié, c'est comme l'amour. Ça ne se cherche pas, ça ne se trouve pas, ça vient comme ça, sans qu'on s'en rende compte. D'un coup, on affectionne quelqu'un. Et puis, c'est comme l'amour, il y a des âges pour ça. Plus on avance en âge, moins l'on peut être amoureux pour... Et pour l'amitié, c'est la même chose. Car l'amitié, comme l'amour, ne se passe que dans un corps encore plein d'illusions, juvénile. Donc Philippe est seul, n'a pas de relation, n'a que Galien, qui lui est une vieille relation d'enfance, de toujours, car maintenant s'il le rencontrait, ce ne serait pas la même chose. Galien ne supporterait pas l'inaction de Philippe, et Philippe ne supporterait pas la trop grande action de Galien. Mais maintenant, leur amitié est trop vieille et forte pour que ce genre d'incompatibilité joue un rôle. Mais les parents de Philippe, qu'est-ce qu'ils pensent de son inaction ? D'abord, ils le voient très peu. La journée, ils sont en dehors de la maison, chacun a ses occupations, et le soir, après le dîner, Philippe sort. Ce qui leur laisse fort peu de temps pour se disputer, se quereller. Quant au jour de congé, fin de semaine, c'est le jour des visites aux amis qui ont des maisons de campagne, ce qui fait qu'ils ne peuvent se parler. Mais le père dit des fois à sa femme que leur fils exagère un peu. Il vient au crochet. Il faudrait peut-être lui dire de chercher du travail. Sa femme lui dit « Oh, où veux-tu qu'il en trouve ? Il n'y en a pas. » Et les jours passent. Le soir, Philippe aime sortir. Les rues sont au moins de monde. La nuit cache ses misères. Il va droit devant lui, sans se soucier où il va. Marche en réfléchissant sur le monde, comment il va, se pose des questions, comment la science est née chez l'homme, le contemplatif, l'homme est devenu scientifique. Tout à coup, il voit arriver à lui une jeune femme dans les 25 ans, grande, mince, très élégante, les cheveux blonds, mi-longs, habillée d'une robe d'été blanche. Elle porte à la main un petit sac à main. Lorsqu'elle est près de lui, elle s'arrête et lui demande « Pardonnez-moi, monsieur, mais je cherche un café ou quelque chose dans ce genre. » Il voit qu'elle a le teint très blanc, pâle, les yeux bleus énormes, les lèvres mouillées mais rouges. Elle semble vieillie, mais les traits purs. Elle lui dit « Monsieur !» Il lui dit « Pardonnez-moi. » « Mais j'étais dans la lune. »« Oui, vous cherchez un café ?»« Oui, il y en a un tout près. Je vais vous conduire. »«
Parce qu'il n'y en a pas trop ici. »«
Vous connaissez ?»
Elle lui dit.
« Non, je ne connais pas la ville. »
Et ils se mettent en marche.
Il lui demande. « Vous venez de loin ?» « Non, de Malataverne, pas bien loin d'ici. » Il lui dit, « Faut faire attention la nuit. À Lyon, c'est comme dans toutes les grandes villes. Il y a des bagarres et beaucoup de femmes se font agresser. »
Ils arrivent dans une petite rue où se trouve dans un angle un petit café. petit café un peu minable avec des rideaux pour que personne ne puisse voir à l'intérieur du café. Et il y a une lumière jaune triste. Philippe lui dit « Pardonnez-moi, je n'ai rien d'autre à vous offrir, c'est un peu lugubre. » Elle lui dit « Ce n'est rien, allons, entrons. » Et il rentre. Il y a une petite musique de barbarie. La salle est petite, genre 1950. Quelques consommateurs à casquette, des vieux, qui jouent aux cartes. Le bistroquet est à son comptoir. Il lave des verres, la cigarette à la bouche. Il est maigre, cheveux grisonnants, le regard maussade. Porte une veste de laine grise et un pantalon marron. Philippe et la femme vont s'asseoir à une table. Le bistroquet qui les a vus entrer finit d'essuyer son verre et va vers eux. « Vous désirez ?» Philippe demande à la femme. « Vous voulez boire ?» Elle lui dit « Un café, un petit cognac. J'ai un peu froid. » Philippe dit « La même chose. » Et le bistroquet s'éloigne pour aller chercher les commandes. La femme lui dit « Je me suis senti lorsque tout d'un coup, un peu perdu. » Venez de loin. Le bistroquet apporte les consommations et met sur la table. Merci. Et il s'éloigne. Elle lui répond. Non, pas vraiment. J'étais chez des amis. Peut-être. Je ne sais plus. Cela vous arrive souvent de perdre la mémoire? Non, c'est la première fois. Et je dois avouer, c'est que je n'ai pas mangé de la journée. Et chez vos amis, je n'étais allé que pour le goûter. Buvons. Ils boivent leur café. Il lui dit, mettez le sucre, cela vous remontera un peu. Elle lui dit, merci. Et met un morceau de sucre dans ce qu'il lui reste de café. Philippe fait signe au bistroquet qui vient. Vous pouvez nous apporter quelque chose à manger ? Bistroquet lui dit. Il reste un peu de poulet froid. Il demande à la femme. Cela vous va ? Oui, merci. Mais il ne fallait pas. Et Bistroquet s'éloigne. Elle dit. Je suis confuse. Il lui dit. Ce n'est rien. Il faut bien que vous repreniez des forces pour rentrer chez vous. Elle lui dit « Oui, chez moi, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que je ne sais comment y aller. Je n'ai plus de voiture. » Le bistroquet vient leur apporter le bout de poulet avec un morceau de pain et de la moutarde. Philippe demande « Vous n'avez plus de voiture ? C'est-à-dire qu'elle est tombée en panne ? Et je me trouve sans voiture. Vous avez un car ? Elle lui dit. Pas à cet heure-là. Mais pourquoi ne pas avoir pris un car au lieu de traîner dans la ville comme ça ? Elle lui dit gênée. C'est-à-dire qu'elle tombait en panne lorsque je suis sortie de chez mes amis et qu'il était déjà trop tard pour prendre un car. Philippe lui dit. Vous auriez dû retourner chez vos amis ? Je n'ai pas osé. Et où est la voiture ? Elle lui dit, encore au garage. Où ? Lequel ? Elle est peut-être réparée ? Elle lui dit, non, sûrement pas. Le garage est fermé. C'est un petit garage. Où ? Je ne sais plus. Il lui dit, et comment allez-vous la retrouver ? Elle lui dit, le garagiste a mon numéro de téléphone. Il lui dit, alors, si vous ne m'aviez pas rencontré, qu'auriez-vous fait ? Elle réfléchit et lui dit, j'aurais appelé un taxi. Il lui dit, C'est ce que nous allons faire, car moi j'ai pas de voiture. Elle fait la moue de dépit. Une fois qu'elle est finie de manger et de boire, il lui dit « Je vais demander à téléphoner pour avoir un taxi. » Il se lève, va vers le bistroquet qui est à son comptoir. « Je peux téléphoner ?»«
Oui, bien sûr, là. »
Il lui montre une porte. Philippe y va. Un quart d'heure plus tard, ils sont sortis du bistrot. Un taxi est à la porte. Ils entrent dans le taxi. Philippe dit à la femme « Je vous accompagne ». Celle-ci demande
« Nous allons où ?»
Elle lui dit « Va à la taverne, le chemin du haut. »
« Bien, allons à la campagne. »
Et le chauffeur a mis la voiture en route. Elle lui dit, vous n'êtes pas obligé de me raccompagner. Il lui dit, comme cela je serai sûr que vous êtes bien rentré. Elle a fait arrêter sa voiture. C'est la pleine lune. L'on peut voir que c'est devant une entrée d'un parc où se trouve au fond une maison du 19e d'un étage. Le parc est assez grand avec de grands arbres. L'endroit est assez désert. Ils sortent de voiture. Au moment où payer, elle ne trouve pas son porte-monnaie ni son chéquier. Il lui dit « Voyez, j'ai bien fait de venir vous accompagner. » Il dit au chauffeur « Vous me ramenez à Lyon ?»«
Bien, mais faites vite parce qu'il est tard. »
Il lui dit « Bon, ben au revoir. » Elle lui dit « Au revoir. » Elle regarde dans son sac. Il lui dit « Zut, qu'est-ce qu'il y a encore ? J'arrive pas à trouver mes clés pour entrer. » Philippe soupire, lui dit « Il va falloir appeler un serrurier. Mais comment ? » Le chauffeur lui dit
« J'ai mon téléphone portable. »
« Merci. » Philippe prend le téléphone. « Téléphoner à qui, à cette heure ?» Le chauffeur taxi lui dit
« J'ai mon beau-frère qui est serrurier. »
« Vous pouvez pas le faire venir ?» Le chauffeur prend l'appareil et fait un numéro et dit à Philippe
« Je vous raccompagne à Lyon après. »
Philippe lui dit « Oui, je ne peux pas rester ici toute la nuit. Ne vous en faites pas. » Je vous payerai. chauffeur de taxi a téléphoné à son beau-frère qui va venir dès qu'il peut. Ils restent tous les trois dans la voiture. Il commence à faire froid. Le chauffeur a laissé son compteur tourner. Philippe dit à la jeune femme, « Mais qu'est-ce que vous auriez fait toute seule, sans argent ni clé ?» Elle lui dit, « Je ne sais pas vraiment. » Il lui demande, « Mais comment avez-vous fait pour sortir comme ça ?» Elle lui dit, « Je ne sais pas. Vous vivez seule ? Oui. Dans cette grande maison ? Oui, elle est à ma famille. » Enfin, ils ont entendu une voiture qui s'est arrêtée devant eux. Le chauffeur taxi dit « Voilà mon beau-frère !» Ils sortent tous de voiture. Sort de la sienne le serrurier, taille moyenne, cheveux châtains, maigre, bouson de cuir noir et pantalon beige. « Salut !» Le taxi vient vers lui et lui dit « C'est tes clients. Tiens, Polo !» Polo va vers eux. Il demande « Que se passe-t-il ? » Philippe lui dit « C'est pour madame. Bonjour monsieur, j'ai oublié mes clés et je ne peux pas rentrer chez moi. » Le serrurier se gratte le nez et lui dit « Vous avez des papiers d'identité ?» Elle sort de son sac ses papiers. Il les regarde et lui dit en les lui tendant «
C'est bon, mais la carte est périmée de 3 ans. C'est pas grave, on va ouvrir tout ça. »
« Merci monsieur. » Philippe va vers eux et dit « « Bon, eh bien, je vous laisse, hein. Vous avez de l'argent pour payer le serrurier ?» Elle lui dit « Oui, ça ira, merci. » Commence à s'éloigner, elle lui dit « Donnez-moi votre numéro de téléphone pour que je puisse vous appeler pour un rendez-vous. » Il lui dit « Pourquoi faire ? Pour vous rembourser ? Pas la peine. Si, ou alors, je vous invite au restaurant. » Elle lui sourit. Et elle a un si joli sourire qu'il a envie de la revoir. Alors il lui donne sa carte et entre dans le taxi. Qui a démarré.
Cascade, hein. On fréquente la grande cascade. Hein.
Le lendemain matin, en prenant le petit déjeuner au salon, le père de Philippe lui dit
« Tu es rentré bien tard hier au soir.
J'étais obligé d'aider une jeune femme qui avait des ennuis. » Sa mère lui dit « Elle était jolie. » Philippe lui dit « Assez, mais d'une beauté étrange. » Son père lui dit
« Ah, et qu'avait-elle comme ennui ?»«
Pas d'argent, pas de voiture, pas de clé pour rentrer chez elle. » Son père lui dit
« Tout ça ?»«
Oui, mais j'ai arrangé les choses.
Je ne m'en doute pas. »
Sa mère lui dit « Une femme sans argent, seule dans la nuit, méfie-toi. » Philippe lui dit « Il ne m'est rien arrivé. » Midi, le téléphone sonne au bureau de son père.
Philippe, qui est seul, sort de la chambre pour aller répondre au bureau.
Allô? Oui? Bonjour, c'est moi, la personne que vous avez aidée hier au soir. Vous vous souvenez? Elle lui dit, oui, bien sûr. Elle lui dit, vous êtes bien Philippe? Oui. Parce que moi, c'est Nadine Dupin. Bonjour Nadine. Bonjour Philippe. Je ne vous dérange pas? Non, pas du tout. Je vous téléphone, c'est pour vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Elle lui dit, ce n'est rien. Vous êtes bien rentré? Oui, très bien. Serrurier était très gentil. Il m'a ouvert la porte de la maison aussi. Et j'ai enfin trouvé mon chéquier et mes clés, qui étaient sur la commode de l'entrée. Il lui demande, et les clés de la voiture? Je les avais dans ma poche, mais je ne sais pas comment elles y sont venues. Enfin, la chose est finie. J'aimerais, si vous êtes libre ce soir, il lui dit, oui, bien sûr, eh bien... J'aimerais c'est pouvoir vous inviter au restaurant pour vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Merci. Elle lui dit, bien, nous donnons rendez-vous, place Jean Massé, à 20h. Cela vous va-t-il ou faut-il que j'aille vous accompagner? Il lui répond, non, très bien, merci, à ce soir. Le soir, lorsque les parents reviennent, il leur dit « Je suis invité à dîner au restaurant. » La mère lui dit « Oh, avec qui ?» Il lui dit « Avec la jeune fille d'hier au soir. » Elle lui dit « Fais attention, elle cherche peut-être à t'avoir. Surtout ne paye pas le repas, tu as assez payé. » Il lui répond « Mère, je suis suffisamment grand pour savoir ce que je peux faire. » On dit ça. Mais les hommes avec les femmes restent toujours des enfants.
Jérôme fait les 100 pas.
Il est 20h, place Jean Massé. Il ne sait pas exactement où elle doit venir. La place est tout de même grande. Il est venu en voiture, on ne sait jamais. Il faudra peut-être la raccompagner. Enfin, il la voit. Elle a un petit tailleur beige. Il va vers elle et lui dit « Bonjour ». Elle lui dit « Bonjour, j'espère que vous n'avez pas trop attendu. Non, je viens d'arriver. » Elle lui dit « J'ai trouvé un petit restaurant pas très loin d'ici. Je crois me rappeler qu'ils font de la très bonne cuisine traditionnelle française et non de ces espèces de choses exotiques ou soi-disant exotiques qui sont hors de prix et pas très nourrissants. Nous y allons ?» Oui, et il la suit. Le restaurant est dans une petite rue, pas très loin de l'école Saint-Michel.
Ils sont entrés. La pièce est moyenne, meublée, disons, rustique. Les tables ont des nappes toile blanche. Il y a un peu de monde. Une jeune fille, chantin, taille moyenne, robe noire, va vers eux.
Nadine lui dit « Une table pour deux personnes, s'il vous plaît. Vous avez réservé ?»«
Oui,
au nom de Madame Dupin. Viens, veuillez me suivre. » Elle les mène à une table au fond de la pièce. « Je vais vous présenter les cartes. Vous désirez boire quelque chose ?» Nadine demande à Philippe. « Vous voulez boire quelque chose ?»« Moi, oui. Eh bien, moi aussi. » »«
Deux apéritifs maison ?»«
Oui. » Et la serveuse s'éloigne. Nadine dit « Je suis confuse hier. » »« Pour hier, c'est la première fois que ça m'arrive. » Perdre la mémoire comme ça, c'est idiot. Philippe lui dit, peut-être la fatigue. Elle lui dit, oui, peut-être. Depuis quelque temps, je sens un grand froid en moi. Je crois que j'étais malade, mais je me souviens plus. J'ai un passage à vide dans ma vie. Il lui demande, comment cela? La serveuse leur apporte des apéritifs avec amuse-gueule et les cartes. Il s'éloigne. Nadine lui dit, n'ont pas l'air un peu égoïste de manger là, de bonnes choses, alors que des gens meurent de faim?
Il lui dit, de toute façon, si ce n'est pas nous qui allons les manger, ces bonnes choses, ce sera d'autres.
Il regarde les cartes en buvant. Il lui dit, vous n'avez pas répondu pour votre perte de mémoire. Vous vous souvenez jusqu'à où? Elle lui dit, je me souviens jusqu'à la mort de mon mari et de toute ma famille. Mort dans un accident?
Oui,
ça a été atroce, tout ce sang. J'étais effrayé. Accident de voiture? Non, mais le sang, c'était après, quand ils ont été déchiquetés. J'aime mieux ne pas en parler. C'est là, je ne sais pas pourquoi, que j'ai perdu la mémoire. Il lui dit, c'est normal, le choc nerveux, l'émotion.
Elle lui dit, oui, sans doute.
La serveuse revient avec, vers eux avec un petit carnet.
Vous avez choisi?
La dite surprise dit, je prendrai la même chose que monsieur. Philippe dit, bon, alors, une soupe au cresson, un beefsteak bien cuit, un gratin de pommes de terre et comme dessert, une tarte à la rhubarbe. Elle lui dit, moi aussi. La serveuse s'éloigne. Il lui dit, vous disiez que vous aviez, que vous n'étiez pas bien? Elle lui dit, oui, j'ai toujours froid, j'ai des difficultés à me souvenir de ce que je fais. Et votre famille?
Ma famille? Je n'en ai plus. Ils sont tous morts. Je vis seul dans la grande maison.
Mais ça va aller. On leur sert le premier plat. Ils mangent en silence.
française de qui ?
Puis elle lui demande de parler de lui et lui explique ce qu'il fait, c'est-à-dire rien, à part écrire un peu sa vie chez ses parents. Elle lui sourit et lui dit « J'aurais aimé avoir un fils comme vous. » Il lui dit « Je peux pas. Je suis beaucoup trop vieux pour vous. » Elle lui dit « Qui sait ?» Après le repas, il a voulu payer sa part, mais elle a refusé. Elle a payé et ils sont partis. Il l'a ramenée jusqu'à sa voiture pour la raccompagner.